Seigneur, nous te remercions pour la parole que tu nous dis aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous as aimés jusqu'à la fin. Tu nous as choisis pour te servir et être tes messagers, pour être fidèles à ton message. Nous prions que tu fortifies chacun d'entre nous pour être volontaire, pour servir le Dieu vivant, pour venir dans le Temple Saint, pour accomplir le magnifique service sacerdotal. Ce matin, nous venons pour revêtir ces vêtements sacerdotaux et rejeter le vieil homme, rejeter Ésaü, pour revêtir Christ, pour revêtir l'homme nouveau qui te plaît. Ce matin, lave-nous, Seigneur, de toutes nos imperfections, nous laver de nous-mêmes. Sonde nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, que tu nous purifies aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas en accord avec toi soit rejeté. Que nous puissions vraiment nous en dépouiller. Nous voulons être un peuple qui te plaît. Nous désirons t'entendre. Ô Père, nous t'aimons avec notre meilleur amour pour te connaître d'une telle manière qui te plaise. Nous voulons être de ceux qui sont acceptables à tes yeux. Merci Père pour ce matin, parce que nous pouvons marcher par l'Esprit. Tu es celui qui marche au milieu des chandeliers. Sauve-nous de toutes les pensées mauvaises en nous. Tu es le Très-Haut. Sois fort maintenant, Zorobabel et Josué, et vous tous, le peuple du Seigneur, parce que je suis avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Nous voulons être les sacrificateurs qui te servent. Seigneur, nous te remercions pour toute ta parole dans cette conférence, que cette parole porte du fruit en nous. Tu es avec nous. Amen. La chose la plus précieuse, c'est le sacerdoce et l'Église. Et c'est parce que tu es avec nous. L'Éternel est ici. Bénis notre communion ce matin. Et saisis chacun de nous par un esprit de sagesse et de révélation. Ouvre nos oreilles pour entendre. Et fortifie notre homme intérieur pour saisir ce que tu dis. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Amen. Sois au milieu de nous, marche au milieu de nous. Seigneur, nous voulons être de ceux qui marchent en toi. Merci pour ta parole dans cette conférence. Ouvre nos yeux pour voir ta véritable condition, pour voir que tu nous aimes encore et que tu es encore avec nous, que tu nous parles encore. Seigneur, comme nous entendons ta parole, que nous puissions vraiment t'entendre et obéir. Nous voulons accepter aussi toute ta correction pour être saint comme tu es saint, pour être acceptable dans ton sacerdoce. continue de parler dans ce temps ce matin. Que ta lumière brille, fortifie chacun d'entre nous pour tenir ferme. Accorde-nous un cœur tendre aujourd'hui. Nous ne voulons pas avoir un cœur rigide quand tu nous parles. Nous voulons être volontaires pour collaborer avec toi. Adoucis, attendris le cœur de tous les saints pour avoir une véritable repentance, pour que tu puisses véritablement nous soigner, Seigneur. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tes bénédictions dans cette conférence. Merci parce que tu nous parles et tu nous montres notre condition. Nous voulons être de ceux qui saisissent tes commandements et qui les prennent à cœur. Nous voulons marcher en accord avec ta parole, en accord avec ta nature, Père. Nous voulons te connaître comme ce maître et ce père, comme ce grand roi. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole dans cet âge. Nous prions que nous ne rendions pas nos cœurs durs, mais parle-nous d'une manière fraîche et nouvelle. Merci encore de nous montrer notre véritable condition. Nous voulons considérer nos voies et nous tenir devant toi, nous repentir devant toi. Seigneur, retire tous nos voiles aujourd'hui. Amen. Nous prions que ton fardeau soit pleinement libéré. Amen. Seigneur Jésus. On peut chanter de nouveau le chant d'hier, le 301 en anglais. Oh, purifie-nous en parlant dans nos cœurs par ta parole vivante qui nous nettoie. Amen. C'est la strophe 2. Purifie-nous, Seigneur, en parlant dans nos cœurs. Ta parole est vivante et nous lavons entièrement. Ta parole abonde et purifie notre être. Oh, nous t'en prions, cher Seigneur, purifie-nous aujourd'hui. Lave tout ce qui est terrestre. Parlons-nous maintenant et rends-nous glorieux. Oh, parle-nous toujours, Seigneur. Amen. Parle-nous aujourd'hui. Amen. Rends-nous glorieux par ton œuvre. Pas de la gloire pour nous, mais la gloire pour ton Église. Obtenant ton épouse, achevant ta recherche. Ô Seigneur, que ton œuvre soit faite, soit accomplie. Seigneur, opère-nous chaque jour. Nous voulons être pleinement sanctifiés. Nous voulons être une église glorieuse pour notre Dieu. Amen. Sanctifie-nous entièrement. Amen. Rends-nous glorieux aujourd'hui. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. C'était le début de la strophe 5 que le frère a lu. Seigneur, rends-nous glorieux par ton opération. Pas de gloire pour nous-mêmes, mais la gloire pour l'Église. Amen. Seigneur, prends soin de nous comme ayant part à toi, brûle-nous par ta tendresse, réponds à chaque besoin, adoucis-nous, Seigneur, pour être conforme à toi. Cher Seigneur, c'est notre prière. Seigneur, chéris-nous aujourd'hui, jusqu'à ce que notre froideur s'envole. Garde-nous près de toi, chéris-nous tendrement, chéris-nous aujourd'hui, Seigneur. Ce soir, nous te demandons que tu nous sanctifies. Nous voulons être pleinement séparés, spécialement pour toi, pour ton plan sur la terre. Au travers de cette réunion, ajoute-toi toi-même en nous. Seigneur, tu es la nourriture dont nous avons besoin. Tu œuvres en nous. La joie du cœur. Amen. Seigneur que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient rendus irréprochables pour la gloire. Que le Dieu de gloire vous sanctifie lui-même tout entier. Je sais plus où est la référence de ces versets. Merci pour de nous laver par l'eau de ta parole. Seigneur, nous ouvrons à ta parole pour que tu puisses nous parler par ta parole de vérité. La vérité qui peut séparer l'âme de l'esprit. Nous désirons être nourris par ta parole. Tu nourris et tu chéris l'Église. Tu veux te présenter à toi-même une Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable. Fais une telle œuvre en nous aujourd'hui. Amen. Nous voulons entendre ta parole. Venir près de toi. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons être préparés comme une épouse se prépare pour son époux. Nous voulons être irréprochables pour venir devant toi. Nous t'aimons, cher Père. On n'a pas vraiment fini le chapitre 1 pour l'instant. Seigneur Jésus. Des soucis techniques. Donc, on arrive vers la fin du chapitre 1. On va jamais finir le livre de Malachie, mais on le terminera la semaine prochaine. On a tous le résumé. Vous l'avez tous sur vos téléphones. On en était au point dans le résumé où le Seigneur fait des reproches au sacrificateur. J'ai pas envie de tout répéter à la fin de ce livre. Dieu parle en résumé, en particulier du sacerdoce. Ça montre à quel point le sacerdoce est important. C'est le plan de Dieu. On va le voir au début du chapitre 2. Mais on voit qu'à la fin, le sacerdoce est devenu déchu. Et Dieu a été offensé, en colère à cause de ça. Ne crois pas que Dieu soit qu'un Dieu d'amour et de gentillesse. Il y a trois mots qui le décrivent. D'abord la justice, et c'est écrit très clairement qu'il hait l'iniquité, en particulier dans son sacerdoce. Son sacerdoce ne peut pas être avec de l'iniquité, mais ça doit être un sacerdoce de droiture, de justice et de sainteté. C'est pour ça que Pierre parle d'un sacerdoce royal et saint. La sainteté est très importante pour Dieu parce qu'il est saint. Il n'est pas juste juste, pas seulement juste, mais il est aussi saint. Souvenez-vous, il parle du. Dans Pierre, il parle au chapitre 2. Il parle du saint sacerdoce. Il parle du sacerdoce au chapitre 2 et au chapitre 1, il dit: Soyez saints car je suis saint. Et au tout début, dans Exode 19, quand il fait sortir son peuple d'Égypte, il dit à son peuple qu'il veut une nation sainte, un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, parce que toutes les autres nations sont profanes. N'y a pas besoin d'aller très loin pour regarder. Juste là, dans notre voisinage, à Los Angeles, c'est pas sain. Même si ça s'appelle Hollywood, ce serait le bois saint, mais c'est pas saint. C'est pas un lieu sanctifié. C'est le monde aujourd'hui. Nous devons être à l'opposé de ça. En particulier pour le sacerdoce, la sainteté est tellement, tellement importante. Si on revient à Malachie, même juste la page avant, dans Zacharie, à la toute fin de Zacharie, Jérusalem et Juda, est-ce que vous pouvez nous. Est-ce que frère, tu peux nous le lire? Verset 20. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux: Sainteté à l'Éternel. Les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Sainteté à l'Éternel. Juda et Jérusalem doivent être saints pour l'Éternel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda. Est-ce que c'est avant ou après? C'est juste après. C'est au verset 21, Zacharie 14, 21. Toute chaudière à l'Éternel et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. La sainteté est à l'Éternel. Qu'en est-il en ce jour-ci, maintenant? N'attendons pas ce jour-là. Nous ne serons peut-être pas à ce jour-là. Mais qu'en est-il aujourd'hui, maintenant? Le sacerdoce, aujourd'hui, doit être la sainteté à l'Éternel. Comme j'ai mentionné hier, tellement de prêtres et de pasteurs qui sont pas tellement saints. Je n'ai pas besoin d'en parler aujourd'hui. Parce qu'à la fin, c'était tellement pas sanctifié. Et tous ceux qui n'ont pas voulu pratiquer la sainteté. Tous ceux qui veulent pas la sainteté seraient jetés dehors. Est-ce que vous croyez que c'est ça la sanctification? Mais aujourd'hui, le fardeau du Seigneur, c'est que l'on pratique ce sacerdoce. Toutes sortes de services On doit pas. N'y a pas un service qui soit la sainteté, mais ça doit simplement être dans notre service. Il dit que l'Église, elle est sainte et irréprochable, sans défaut. Je vous le dis, dans les 10 dernières années, beaucoup de frères et sœurs ont vraiment vu que la vision, c'est plus juste Christ et l'Église, mais Christ est une Église glorieuse. Et comment est-ce qu'elle peut être glorieuse si elle est pleine de défauts? C'est impossible. Alors, la vision aujourd'hui, c'est clairement Christ et son Église glorieuse. Pas juste l'Église. Il y a tellement de sortes d'Églises. Tu peux aller n'importe où. T'as carrément le choix. Maintenant, en ce qui concerne le sacerdoce, peut-être je peux vous lire au chapitre 1. Seigneur. Je sais absolument pas dans quel livre il est. À vous, mes sacrificateurs, qui avaient méprisé mon nom. Dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? On dit, Seigneur, toutes les fois où on vient, on te glorifie les dimanches. Ah, Malachie 1, la fin du verset 6. C'est pas juste le dimanche. Parce que c'est juste d'une manière routinière. Ah, on est dimanche, alors je dois aller à l'église. Mais qu'en est-il de du lundi au samedi? Et qu'en est-il après la réunion le dimanche? Tu vas faire tellement de choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je ne sais pas ce qu'on regarde tous et quelles activités on a. Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que vous croyez que le Seigneur n'était pas au courant? Tu crois que tu peux tromper Dieu? Et maintenant, vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 16, 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Quand il demande en quoi avons-nous méprisé ton nom, le Seigneur leur répond. C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Ça montre que dans leur cœur, ils méprisaient. Ah, 1 heure et demie, ouf, tu arrêtes pas de regarder ta montre. Beaucoup de personnes font ça. 2 heures de réunion, oh. Oh là là, c'est tellement long. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas mépriser la table du Seigneur? À la fin, tu sais même pas à quoi tu prends part, ce que tu manges. Lis à nouveau 1 Corinthiens, verset 11, chapitre 11. Seigneur était vraiment en colère. Parce que quand on vient à la table du Seigneur, quand il venait à la table du Seigneur, il savait même pas ce qu'ils mangeaient, ils faisaient un mélange avec leur propre repas. Le Seigneur leur dit, vous mangez et vous buvez pour votre propre jugement. Le Seigneur les a jugés. Beau jour, beaucoup ont été jugés et même sont morts. Lisez 1 Corinthiens 11. Il dit, si seulement vous fermiez les portes pour que ça n'ait plus lieu. On a besoin de savoir que l'on agit avec le Dieu vivant. Il est un grand Dieu. Et ensuite, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Si on lit Lévitique et Exode, on voit que chaque sacrifice qui doit être amené à Dieu doit être absolument parfait. N'apporte pas un agneau qui a une oreille blessée ou qui n'a pas, auquel il manque une patte ou une chèvre malade que toi-même tu ne mangerais pas. Ne fais pas cela. Le Seigneur dit là, et quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, même aveugle d'un seul œil, est-ce que ce n'est pas méchant, mauvais? C'est méchant parce que ces animaux sacrifiés sont une image de Christ et il était parfait. Il était sans péché, il était absolument parfait. Alors comment peux-tu offrir quelque chose qui n'est pas parfait à Dieu? Il ne va jamais l'accepter. Il est Dieu. Et quand tu offres une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Non. Le Seigneur nous parle dans notre langue. Il nous parle vraiment d'une manière qui est à notre portée. Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et ensuite, tu veux que Dieu te soit favorable, qu'il te fasse miséricorde, qu'il te fasse grâce. Souvent, on demande à Dieu de nous faire grâce et il nous répond non. Comment Dieu peut nous faire grâce? Quand c'est ce que nous faisons par nos mains, va-t-il nous accepter favorablement? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Le Seigneur savait que le Père l'écoutait et répondait à ses prières. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il faisait la volonté du Père. Suppose que tu fais toujours des choses qui lui déplaisent et puis d'un coup sorti de nulle part, tu lui demandes, oh s'il te plaît, fais ça pour moi. Il va te demander, qu'est-ce que tu veux de nouveau? Je t'ai dit tellement de choses et tu n'écoutes même pas. Et maintenant que tu as besoin de quelque chose, tu viens à moi. Est-ce qu'il va te recevoir favorablement. Te recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Et verset 10, on en a parlé hier. Lequel de vous fermera les portes? Le Seigneur aurait préféré à cette époque que les portes du temple soient fermées pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Je ne prends aucun plaisir en vous. Ce qu'on offre à Dieu dans de telles conditions est vain parce que Dieu ne peut pas l'accepter. Si tu te fiances, si tu te fiances à une femme, ne lui donne pas un faux diamant. Si tu lui offres une copie, elle ne va pas apprécier. Dieu veut aussi qu'on lui rende ce qui lui est dû. Ne prends pas juste quelque chose à la dernière minute. Je n'ai pas de plaisir en toi, dit l'Éternel. Mais Dieu a seulement plaisir dans son Fils. Si tu apportes toute chose à lui, il va être heureux. Souvenez-vous, plusieurs fois il a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ou en qui je suis satisfait, en anglais. Mais si on offre n'importe quoi comme offrande, il ne peut pas être satisfait. Il faut lui rendre ce qu'il désire. Fin du verset 10. Les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Je ne peux pas les recevoir. Est-ce maintenant, depuis 2014, je m'entraîne. Ça fait presque 5 ans, plus de 5 ans, m'exerce. Et je veille toujours à essayer de ne pas dire des paroles trop fortes pour pas que l'on soit découragé. Mais là, on voit très clairement ce que Dieu veut. Il ne peut pas accepter les offrandes de notre main, si elles ne lui sont pas agréables, mais que l'Esprit nous enseigne chaque jour à préparer ces offrandes. On a besoin de préparation. J'utilise votre chien à nouveau comme exemple. Vous avez un chouette chien. Est-ce que tu crois que Mercedes va manger juste n'importe quoi? Tu trempes du papier dans de la sauce soya et tu lui mets ça dans son écuelle. Est-ce que tu crois qu'il va manger ça? Il sent ta bonne nourriture. Et nous, quand on apporte une offrande à Dieu, tu crois qu'il ne sent pas? Verset 11, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Bien sûr, c'est une parole prophétique de l'Éternel que dans le millénium, toutes les nations apporteront des offrandes pures à Dieu. À Jérusalem, ils viendront. Mais aujourd'hui, nous, en tant que sacrificateurs, dans son église, dans son sacerdoce, devrions être les premiers qui apportons de telles offrandes. C'est un privilège, un don. Mais c'est un privilège de gagner Christ. Ne croyez pas. Oh non, ne vous dites pas. Oh non, je dois encore le faire. Oh, c'est quel fardeau. Oh, quelle difficulté. Oh, c'est la réunion. Oh, je dois absolument apporter quelque chose. Si ça, c'est ton attitude, n'apporte rien. Viens juste. Tu ne dois pas apporter quelque chose. Dieu ne va pas te forcer. Non, non. On apporte une offrande parce qu'on aime le Père. On aime notre Père céleste. Il a tellement fait pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a régénérés. Il a fait habiter son esprit en nous. On est comme Jacob. On n'est pas bon au départ. Mais Dieu agit en nous pour nous transformer jusqu'à être Israël. Si on regarde au peuple de Dieu, si on regarde à nous, on voit qu'on est né dans le péché. Souvent, je demande au Seigneur, qui suis-je pour que tu sois mort pour moi? Suis-je si précieux? Oui, aux yeux de Dieu, tu es très précieux. C'est pour ça qu'il dit j'ai aimé Jacob. Jacob dirait, tu m'as vraiment aimé? Je suis un trompeur. Même Dieu dit. Mon nom sera grand parmi les nations, mais vous l'avez profané. Comment le monde peut croire en Dieu si nous vivons comme eux et qu'il n'y a aucune différence? Ils font ceci et nous le faisons aussi. Ils aiment faire ça et nous le faisons aussi. Ils sont terrestres et nous sommes aussi terrestres. Alors pourquoi devrait-il croire en Dieu? L'Église doit être un chandelier d'or qui brille dans les ténèbres. Mais si on ne brille pas, si on est juste croyant et il ne se passe rien, si nous sommes comme eux, pourquoi devrait-il croire en notre Dieu? S'il n'y a aucune différence. On profane le nom du Seigneur en faisant ça. La parole de Dieu est vraiment sérieuse. Mais vous avez profané mon nom en disant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapportait un aliment méprisable. Qui a apporté ces aliments comme offrande, je vous demande. Est-ce que c'est Dieu qui apporte un aliment méprisable sur sa table pour toi? Qui a apporté cet aliment? Celui qui apporte un aliment méprisable est le même qui dit ta table est souillée. Sommes-nous raisonnables? Demande-toi toi-même. Est-ce que c'est raisonnable? C'est ainsi que nous sommes. C'est comme ça que les sacrificateurs étaient. La table de l'Éternel est souillée. Est-ce qu'elle rapportaient un aliment méprisable, forcément puisque c'est eux qui ont apporté les aliments. Méprisable, vous dites quelle fatigue, et vous le dénigrez. Comme le chien Mercedes. Il va pas vouloir manger. La nourriture méprisable. Ils l'ont dédaigné. Est-ce que tu as ce fardeau d'apporter des offrandes qui sont sanctifiées? Tu te prépares pour aller au travail chaque jour. Si tu dis à ton chef, oh pff, non, c'est méprisable comme travail, je vais pas le faire, qu'est-ce qu'il va te dire? Si les employés viennent et disent, oh non, je vais pas faire ça, je suis fatiguée, je veux plus de ça. Tu vas dire à la personne, ben rentre chez toi. C'est bon, t'as fini ton travail, tu peux rentrer chez toi. Laissez-moi vous demander à tous, êtes-vous fatigué de préparer des offrandes pour Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de fatigant? Est-ce que c'est un fardeau? Or, je dois venir à la fête. Or, je dois préparer des versets. Oh non, je dois entrer dans la parole. Oh, je vais laisser les frères responsables le faire. Chacun de vous est un frère responsable. Vous êtes ceux qui sont responsables. Qui va apporter de la nourriture? Quelle fatigue. Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Vous amenez ce qui est des offrandes volées. Vous pouvez imaginer cela? Seigneur. J'ose même pas imaginer ce qu'ils ont fait. Elle est boiteuse ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Verset 13. Je crois que en ce temps-là, je crois que cette parole-là, on peut tous la recevoir. Ou bien est-ce que vous êtes offensés? Est-ce que vous pouvez saisir cette parole, la prendre? C'est ma question. C'est en réalité la question de la parole. Sommes-nous prêts à prendre cette parole? Devrais-je accepter ces offrandes de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur. Ils essayaient même de tromper Dieu, qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Il parle là de la crainte de l'Éternel. Je ne veux pas vous effrayer, mais assez au début de Actes, quand les frères et sœurs vendaient tout ce qu'ils avaient et apportaient tous leurs biens pour l'église, on a l'histoire de ce couple, Ananias et Saphira, qui avaient des propriétés et qui ont vendu cela. Et ils ont gardé une partie pour eux. Quand ils l'ont apporté à Pierre, ils ont dit, c'est tout ce qu'on a. Tout est là. Ils ont cru qu'ils trompaient Pierre. Mais ils essayaient de tromper l'esprit. Pierre a d'abord dit à Ananias, pourquoi as-tu menti à l'esprit? Il n'a pas dit pourquoi m'as-tu menti, mais pourquoi as-tu menti à l'esprit? Il l'appelle Saint-Pierre maintenant, mais non, il est juste Pierre. Il a dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? C'était votre propriété, vous pouviez donner ce que vous vouliez et garder ce que vous vouliez. Vous n'aviez pas besoin de tout apporter à Dieu. Mais pourquoi avez-vous menti à l'Esprit? C'est une folie. C'est vraiment une folie, tu ne peux rien cacher à Dieu, il sait tout. Et il est tombé raide mort. Et plus tard, sa femme arrive. Et il se passe la même chose. Les deux ont dû être sortis. C'est pas, oh, tu n'as pas tout donné au Seigneur, alors tu es condamné. C'est pas ça. Mais ne mens pas à Dieu. Tu peux pas tromper Dieu. Tu peux pas être un trompeur pour Dieu. Ne le sois pas pour lui. Nous devons l'honorer. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a tout créé. Rien n'est caché devant lui. Il est le Dieu qui savait, qui sait le futur depuis le passé. Et il sait toutes choses. Il est celui qui sonde les cœurs. La fin du chapitre 1 finit avec ce verset maudit. Soit le trompeur qui ne trompe pas Dieu. Dit l'Éternel des armées, car je suis un grand roi. Dit l'Éternel des armées, donne-lui des honneurs. Il est Dieu. Il est Dieu. Et mon nom est redoutable parmi les nations. Si son nom est redoutable parmi les nations, qu'en est-il parmi nous? D'une certaine manière, je ne blâme pas les nations. Elles ne croient même pas en l'existence de Dieu. Mais nous, nous connaissons Dieu. C'est pourquoi, au début, Dieu dit, où est l'honneur qui m'est dû? Oui, Seigneur. Et maintenant, on peut arriver au chapitre 2. On a peut-être encore une chance de finir. Maintenant, vous tout mon peuple, est-ce que c'est ça qu'il dit? Et maintenant, tous les croyants, tous les chrétiens, tous les frères et sœurs, tous mes fils ou mes enfants, est-ce qu'il dit cela? Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Être un sacrificateur est vraiment quelque chose de magnifique. Ne dis pas, oh non, j'ai peur maintenant, du coup je veux plus être un sacrificateur. Non, tu es un sacrificateur. C'est un don de Dieu. N'abandonne pas. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur pour vous. Cet ordre est pour les sacrificateurs. si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom. Et comment donner gloire à son nom? C'est très clairement dit au chapitre 1. En faisant faire toutes ces choses, ce n'est pas donner gloire à son nom, en particulier parmi les nations. Pourquoi tant de personnes dans le monde rient des chrétiens? Parce que nous n'agissons pas comme des personnes qui appartiennent à Dieu. Nous n'exprimons pas la gloire de Dieu. Pouvez-vous imaginer si tout le peuple de Dieu exprimait sa gloire, alors le monde entier serait sauvé. Mais nous sommes même honteux de nous appeler chrétiens. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Qu'en est-il de ça? Il dit, oui, je les maudirai. Il dit même que c'est déjà fait. Est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas faire cela? Oui, il est Dieu. Comme il dit dans Matthieu 23 aux pharisiens, maudit, soyez-vous. Est-ce que tu préfères qu'il dise béni sois-tu ou maudit sois-tu? Veillons à la manière dont nous agissons en tant que sacrificateurs. Donnez gloire à mon nom. C'est une raison très acceptable. J'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Oui, je les ai déjà maudits, même en anglais. Croyez-moi, frères et sœurs. J'ai vu des bénédictions tourner en malédiction. Dans les premières années, c'était magnifique. Et par contre, dès le moment où ça a commencé de tomber, tout est devenu une véritable malédiction. Je déteste le dire, mais j'ai vu cela. Tu abandonnes la bénédiction. Tu fais quelque chose qui est offensant pour Dieu. Ne crois pas que la bénédiction va en rester une. Toutes les bénédictions que tu as eues par le passé vont tourner en malédiction. Toutes les choses que tu as eues par le passé si nous ne suivons pas véritablement l'agneau, alors ces bénédictions vont tourner en malédiction. Ne croyez pas que je plaisante. J'ai déjà vu cela. Ça ne signifie pas que vous allez tomber raide mort. Mais ta condition spirituelle va se dégrader. Tu vas être spirituellement mort comme l'église à Sardes. Dit, tu as le nom d'être vivant, mais tu es mort. Tu es spirituellement mort. On peut voir des personnes qui sont vivantes, qui connaissent la vérité, mais qui sont mortes. Magnifique de voir la petite armée. Que le Seigneur bénisse nos enfants. Le futur, Seigneur, bénis nos enfants. Les sacrificateurs ne devraient pas être des enfants. Ils devraient être matures dans la vie. transformés à la gloire de Dieu. On va voir cela. Je crois des fois le Seigneur est très humain d'une certaine manière, dans le sens où il parle d'une manière qu'on peut comprendre. Et je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Je détruirai vos semences. Romain. Ah, c'est le point 4B2 du résumé. Si Dieu a maudit la semence, il détruit la semence, est-ce que tu crois que tu peux encore avoir du fruit? Tu crois que tu as des fruits juteux? Du melon doux? Est-ce que tu crois que tu peux avoir tout ça si Dieu maudit la semence? Qu'en est-il du champ de maïs, du champ de blé? Tu vas travailler tellement durement, mais rien ne pousse. Ça, c'est une chose. La traduction là dit en anglais, elle dit je détruirai vos descendants. Ça veut dire que il pas de bénédiction. Les nouvelles générations regardent toujours aux générations précédentes. Est-ce que tu ne crois pas que la nouvelle génération est une bénédiction pour la précédente? Tu peux dire, ok, il va... On peut voir que Dieu va maudire. Détruire les semences. Et on voit aussi que Dieu va retirer l'épaule des sacrifices. Il va les retirer pour les... Les sacrificateurs n'auront plus l'épaule qui était vraiment la partie qui leur est réservée, la meilleure partie. Mais Dieu la leur retire. Est-ce que tu veux perdre la meilleure partie? Je plaisante toujours avec mes enfants quand on mange, avec mes petits-enfants. La meilleure part. La meilleure partie du barbecue. Et je prends le papier, je le donne à mes petits-enfants en rigolant. Puis je leur dis, tiens, je te donne le meilleur. Et du coup, maintenant, ils font la même chose à l'inverse avec moi. Ils me donnent le papier en me disant, tiens, prends la meilleure part. Et si le Seigneur nous retire la meilleure part, qu'est-ce qui nous reste? Et pas seulement ça. Mais là, dans la fête, quand ils égorgent les animaux, toutes les sortes d'offrandes qui sont amenées, il y a beaucoup de saleté là, juste à côté de l'autel. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Seigneur dit qu'il va remettre les excréments sur les sacrifices. Est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas le faire? Jetterai des excréments au visage. Est-ce que tu crois que Dieu va jeter les excréments au visage de quelqu'un? Si je t'invite pour manger chez moi et je te jette des excréments à la figure, ça n'a pas l'air très sympathique, n'est-ce pas? Et on vous emportera avec eux pour vous jeter là où on jette les excréments. Est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas faire ça quand il revient? Si nous ne faisons pas partie des prémices, où Dieu va-t-il te mettre? Je vais pas vous le dire, mais Dieu va nous mettre là où il y aura les excréments, il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents dans ce lieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'une sainte crainte. N'exprime pas juste n'importe quelle sorte d'opinion, devant Dieu, nous avons besoin vraiment de respecter Dieu. Vous sauriez alors que je vous ai adressé cet ordre. Que mon alliance avec Lévi subsiste. Les Lévites sont la tribu sacerdotale. Sans cela, le sacerdoce entier aurait été jeté avec les excréments. C'est sérieux. Cette parole nous montre combien c'est sérieux, combien c'est saint, combien le sacerdoce est sanctifié pour Dieu. Et si en lisant cette parole, on ne réalise pas cela, le Seigneur ne peut rien faire pour nous. Est-ce qu'on ne croit pas que le Seigneur a parlé suffisamment clairement là? À moins qu'on croie que Dieu plaisante avec nous. Il ne plaisante pas. Je connais des personnes qui regardent au sacerdoce et qui disent « Oh, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de forcer les gens. » Souvent, j'ai dit aux frères et sœurs « Ne forcez personne à pratiquer cela. » Et nous ne sommes pas contre ceux qui n'apportent pas des offrandes parce que nous apportons ces offrandes à Dieu et ça doit être le choix et la décision de chacun d'apporter une offrande à Dieu. Ne sois pas contre cela. Et nous ne divisons pas ceux qui offrent des offrandes et ceux qui n'offrent pas des offrandes ou bien entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Non, tout le monde vient et apporte à Dieu par rapport au désir qui est dans son cœur. Ne fais pas une différence. Pourquoi n'offres-tu pas d'offrande? Non, ne fais pas une telle chose. Parce qu'une personne apporte une offrande à Dieu, pas à toi. Si l'offrande est à toi, si l'offrande est pour toi, alors oui, tu pourrais être en droit de demander à la personne pourquoi elle n'apporte pas d'offrande, mais puisque c'est pour Dieu, tu n'as rien à dire. Pas tout le monde, mais les sacrificateurs. Si tu t'exerces à être un sacrificateur, alors apporte à Dieu. C'est un acte volontaire pour notre Dieu. Ce qui est magnifique là, c'est que il a fait une alliance avec Lévi. Un contrat est un contrat. Dieu ne va pas le briser. C'est un Dieu qui garde son alliance. Si Dieu ne garde pas son alliance, et en particulier la nouvelle alliance, et toi tu l'offenses, et est-ce que tu crois que Dieu va te dire bon bah alors je reprends le contrat? Non, Dieu ne fait pas cela. Il ne va pas retirer sa nouvelle alliance de nous. C'est là que l'on voit à quel point il est grand. Son alliance est une alliance de paix et de vie. Cette alliance avec Lévi pas une alliance de loi, mais c'est une alliance de vie et de paix. Qu'est-ce que la vie? Si je regarde Rebecca, je ne peux pas comparer Rebecca à moi. Tu as presque 9 ans. Et j'ai presque 90. Pas tout à fait, mais... Il y a une différence de vie. Je ne peux pas demander à Rebecca ce que Dieu demande de moi. Si je lui demande ce qu'est mon standard, alors il n'y aura aucune paix entre Rebecca et moi. C'est certain. Il n'y aura aucune paix dans la vie de l'Église. C'est une question de vie et de paix. Je ne sais pas si vous comprenez ou non cela. Mais après de nombreuses années dans la vie de l'Église, je commence à comprendre ce que signifie la vie. Parce que sans la vie, sans cette croissance, je peux pas exiger. Parce que c'est une question de vie et c'est une question de paix. S'il n'y a pas de paix, on peut tout abandonner. Mais c'est une question de vie et de paix. Peu importe ce qu'on fait dans la vie de l'Église, il y a vraiment toujours ces deux aspects importants, la vie et la paix. En particulier dans la tribu de Lévi. Si nous sommes de la tribu de Lévi, si nous sommes dans cette alliance de vie et de paix, si nous n'avons pas cette vie et cette paix, nous pouvons abandonner toute idée de sacerdoce. C'est impossible. Et je lui donnerai ce que je lui ai accordé pour qu'il me craigne. Il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Il a eu. C'était dans le passé. Ce serait mieux il a. Ce serait mieux au présent. Ça voudrait dire que c'est encore valable, mais il a changé. Pas pour le mieux, malheureusement, mais pour moins bon. Il a changé. Si tu veux changer, change pour mieux. Ne change pas pour pire. On doit changer pour mieux. Si tu veux changer de travail, change pour mieux. Tout le monde veut ça. Ne change pas pour devenir ramasseur de poubelles. Ça n'a pas de sens. Mais tu veux avoir mieux. Tu veux aller de gloire en gloire. De bien à meilleur. De meilleur à... De mieux à meilleur. Maintenant, on peut jeter un coup d'œil à l'alliance faite avec Lévi. Avant de faire ça, cette alliance avec Lévi n'est pas celle avec Abraham qui était avec le peuple entier. C'était une alliance générale. L'ancienne alliance, Dieu l'a faite avec la totalité de son peuple. Mais là, parce que la tribu Lévi s'est tenue aux côtés de Dieu, il a fait une alliance spécifique avec eux. Il ne fait pas juste partie du peuple de Dieu. En faisant tout ce qu'ils font, s'ils adorent le veau d'or, alors tu adores le veau d'or. Ne suis pas la foule, mais la tribu Lévi est une tribu qui a pris position pour Dieu, parmi tout le peuple de Dieu, au mont Horeb. Ils n'ont même pas attendu 40 jours, mais ils se sont mis à adorer le veau d'or. Ils avaient même rapporté de l'Égypte leurs idoles préférées. Est-ce que tu crois que Dieu ne savait pas cela? Pendant les 40 ans dans le désert, Dieu leur a demandé, est-ce que vous m'adorez? Non, vous trimballez secrètement Moloch et Baal. Vous croyez que je ne sais pas? Dieu le leur a dit. Dieu l'a toléré en espérant qu'ils changeraient, mais ils n'ont pas changé. Ils ne changent pas. Alors, Dieu a fait une alliance particulière avec Lévi. Pour Dieu, le but, c'était de faire de toute la nation d'Israël des sacrificateurs. Mais parmi ces 12 tribus, une seule est restée digne de ce sacerdoce. Quelle nation voudrais-tu être? Parmi les 12 ou tu... Parmi les 11 ou bien... La 12e qui s'est tenue aux côtés d'Abraham, qui s'est séparée. C'est pour ça que Dieu a fait une alliance particulière avec Lévi. C'est vraiment magnifique. Mais 1 sur 12, c'est pas beaucoup. La majorité n'a pas voulu. Est-ce que toi tu le veux ou est-ce que tu veux juste servir Dieu d'une manière générale? Tu as le choix, on a toujours le choix. Il faut juste savoir quel est le choix. Là seulement si tu ne sais pas quel est le choix, que tu n'as pas le choix. Mais Dieu a donné le choix. Et si on lit pour nous-mêmes? Romains 6. Regardez aussi dans Lévitique. On voit les exigences pour être sacrificateur. Nombre de fois où le Seigneur dit, faites ceci et ceci parce que je suis saint. Parce que je suis saint. Dieu est un Dieu saint. Et le sacerdoce doit être sanctifié. On doit chercher la sainteté. Est-ce qu'on recherche la sainteté? Comment? Si tu réalises que tu n'es pas sain, quelle est ton attitude? Si tu ne condamnes pas dans ta vie ce qui est profane, et tu es juste assis là, oh Seigneur, rends-moi sain. Qu'en est-il de ta collaboration? Tu dois chercher la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut être saint dans nos cœurs. Si on voit Dieu, on ne va pas survivre. Comme le soleil, tu ne peux pas le regarder directement. Si tu le fais, tu deviens aveugle. T'as pas besoin de regarder très longtemps au soleil pour devenir aveugle. Qu'en est-il pour le Seigneur? N'essaye pas. N'essaye même pas, ce n'est pas bon. Je me souviens quand j'étais tout petit. On voulait regarder. Quand j'étais petit et qu'on voulait regarder une éclipse solaire, on devait utiliser ces films photographiques pour pouvoir regarder, de regarder à travers. C'est la sainteté. C'est très très important. C'est pourquoi Dieu, dans le Saint des Saints, si tu ne veux pas chercher et poursuivre la sainteté, alors que peut-on faire? Que puis-je dire? C'est un prérequis pour le sacerdoce. C'est tout ce que je peux vous dire. Peut regarder dans Romains 5. Le plan de Dieu depuis le tout début, c'était d'avoir un royaume de sacrificateurs. Et déjà, encore au début de Apocalypse, et chapitre 1, versets 5 et 6, on voit qu'il nous a sauvés il nous a délivrés de l'esclavage du péché, il nous a lavés pour nous rendre libres. Il a brisé les chaînes, nous a sauvés. Le but, c'est de faire de nous un royaume et des sacrificateurs. Et Dieu n'a jamais changé son plan. Depuis qu'il les a fait sortir d'Égypte, ça a toujours été son plan. Mais pour avoir ce trésor pour lui-même. Qu'est-ce qu'un trésor aux yeux du Seigneur? Juste des perles ou des pierres précieuses? Pour les enfants sur les enfants estiment que c'est un trésor quand ils trouvent de la nacre dans un coquillage sur la plage. Mais non, pour Dieu, ce qui a vraiment de l'importance, c'est de l'or pur. La Nouvelle Jérusalem, elle est en or pur, entièrement. Dieu cherche des perles d'un grand prix et des pierres précieuses de toutes sortes. Les murs, les fondations, Tout est construit en pierres précieuses. C'est là où il doit nous transformer en pierres précieuses. Ce sont là des trésors, le Seigneur. Quel trésor avez-vous? Des livres et encore des livres et encore des livres. Je suis en train de chercher un lieu où brûler mes livres parce que j'ai trop de livres. Mais si la bibliothèque est vide, elle sert juste d'arrière-fond. Dieu cherche un royaume de sacrificateurs et dans l'éternité, au chapitre 22, on voit qu'on va le servir en tant que sacrificateur et on verra sa face. Alors, à ce moment-là, on pourra le voir face à face. Mais comme j'en ai déjà parlé, il s'agit d'une alliance de vie et de paix. Malheureusement, à la place que ce soit les 12 tribus, on voit que c'est que la tribu de Lévi. Et ensuite, ça a été plus qu'Aaron et ses fils. Et ensuite, il y a une nouvelle occasion avec Phinéas. Phiné, pardon. Vous pourrez le lire vous-même. Et la situation au temps de Balaam, qui a donné un très mauvais conseil à Balak, qui a dit à Balak de mélanger parce qu'il savait que si le peuple était mélangé, alors Dieu le jugerait. Et il y a un homme qui a voulu garder sa femme qui était Moabite. Et personne n'a voulu les séparer, mais Phinée a pris une épée et on voit qu'il était vraiment à 100% pour Dieu et il les a traversés. Quel a été le résultat? La plaie s'est arrêtée. Sans cela, la colère de Dieu aurait continué. Mais Phinée l'a fait pour que la plaie cesse. Sinon, la nation entière aurait été détruite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ce que Biden est en train de faire de libérer tous les criminels? Est-ce que c'est de la miséricorde? C'est pas de la miséricorde. On a une sœur là qui s'appelle Miséricorde. Ça n'a rien à faire avec de la miséricorde. Mais ce qu'a fait Phinéas, c'était de la miséricorde pour stopper le jugement de Dieu. Et quelle a été sa récompense? C'est le sacerdoce perpétuel. pour lui et les générations à venir. Il y a tellement de choses qu'on peut vraiment apprendre par les saintes écritures pour nous prouver à quel point le sacerdoce est important. S'il vous plaît, lisez. On peut aller dans ce sacerdoce où on voit que c'est les messagers de Dieu. Les sacrificateurs sont vraiment les messagers de Dieu. Les doctrines, les magnifiques explications dans leur bouche. Est-ce que c'est là ce qu'il dit? Faire de l'animation. Non. Qu'est-ce qu'il dit dans Malachie 2, verset 7? Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, doivent dire la vérité, dire quelle est la loi. Aujourd'hui, il faut dire la vérité. Qui dit la vérité? CNN? J'ai entendu quelqu'un dire que c'est les nouvelles de Clinton ou de ils utilisent des acronymes des différentes chaînes d'information américaines. Personne ne dit la vérité. Si tu dis la vérité aujourd'hui, tu es censuré. Ils vont te battre. C'est cet âge. Alors plus personne ne dit la vérité. On vit dans un monde, dans un temps très particulier. Mais sommes-nous courageux pour dire la vérité? Ou sommes-nous craintifs? On ne dit pas la vérité pour se battre contre les gens, mais pour que les gens puissent être sauvés. On n'est pas là pour argumenter. Mais la vérité de la parole de Dieu, il est la vérité. À part en lui, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est pas Trump, c'est pas ceci ou cela. Dieu est la vérité. Il dit « Je suis la vérité ». La vérité et la vie. Le chemin et la vie. La loi de la vérité était dans sa bouche. Ne parle pas parce que tu crois que c'est juste, mais parle parce que c'est Christ. Et ne parle pas. Dis la vérité dans l'amour. C'est là que vient la paix. Malheureusement, très souvent, quand on dit la vérité, ça finit en argumentation. Et il n'y a pas de paix et ça finit en bagarre. Alors il vaut mieux ne rien dire à ce moment-là. Mais on doit purifier nos lèvres comme Ésaïe 6. Parce que nous avons des lèvres impures. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. La droiture et la justice, la vérité vont ensemble. L'amour et la lumière. Ça vient toujours par pair dans la parole. Parfois on a la lumière mais pas l'amour. Du coup, quel est le résultat? pas très bon. Mais l'amour et pas de lumière, ça finit en corruption. Pas de justice, pas de paix. C'est là où le Seigneur apparaît. Il dit, c'est plein de grâce et de paix. Seigneur n'aime pas le mélange. Et la vérité sans la grâce. Ton pain va être comme un morceau de pierre, va être comme un caillou. On a vraiment besoin de cette vérité et cette justice. Notre parole est très importante. Je sais que dans notre expérience, dire la vérité, si on dit juste la vérité avec le marteau, alors on casse beaucoup de choses. On casse les murs à la place de... Ouais, on casse beaucoup de choses. À la fin, quand tu veux juste mettre quoi que ce soit sur le mur, tu détruis tout. Notre marche avec Dieu dans la paix. Dans les familles, dans les couples, entre frères et sœurs, on a besoin de ça. Il ne marche pas tout seul. Comme Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Parce que si tu marches par toi-même, tu vas avoir raison, mais tu seras mort. On a besoin de se détourner de l'iniquité. Et les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Ah pardon, avant c'était le verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche, l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Maintenant, verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Il faut que les personnes, par notre parole, puissent entendre la vérité. Ne parlons pas de manière légère, en particulier les sacrificateurs. On peut s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez poser? Est-ce que tout est clair quand vous rentrez à la maison? Reprenez le résumé. C'est jusqu'au verset 5 du partage de ce soir. Jusqu'au point 5 du résumé. Mon alliance était avec lui. À sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de l'Éternel, mais vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi. Seigneur, cherche ceux qui désirent et qui cherchent à être un messager de l'Éternel. Je ne sais pas à quel verset il était. Ah oui. On peut avoir quelques prières. Sentez-vous libre de prier. Te remercions pour ta parole. Prions que nos paroles soient justes et vraies. Nous te demandons d'agir par ta parole en nous pour augmenter en nous. Nous désirons être les véritables messagers. Nous prions. Sanctifie en particulier nos lèvres, afin que nous puissions dire la vérité. Nous désirons être de ton côté pour être un royaume de sacrificateurs royaux. Prépare-nous d'une manière parfaite. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole dans Malachie. Nous croyons que par l'Esprit, cette parole va agir en chacun de nous, afin que tu gagnes parmi nous ce magnifique sacerdoce. Seigneur, nous te remercions de parler à tes sacrificateurs. Nous voulons humilier nos cœurs devant toi pour recevoir ta correction. Aide-nous, Seigneur, nous désirons avancer, nous ne voulons pas rester les mêmes. En particulier, notre attitude à ta table pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne voulons pas demeurer dans une tradition ou faire juste ce qui est extérieur. Mais donne-nous un cœur véritablement repentant pour vraiment travailler en toi, pour connaître ce Christ magnifique. Seigneur Jésus, amen. Enseigne-nous chaque jour ce qui te plaît, ce qui plaît au Père. Seigneur, nous te remercions que ton désir n'ait jamais changé. Tu désires faire de nous ces sacerdoces royaux. Nous prions que nous soyons tous diligents pour te suivre. Accorde-nous un cœur repentant pour être vraiment volontaire, pour collaborer avec toi. Père, nous désirons changer. Nous désirons être le peuple par lequel tu es satisfait. Ce peuple qui amène qui te rend ce service qui t'est agréable. Nous prions pour chacun de nous dans ces jours, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus. Merci pour la nouvelle alliance. Merci parce que tu ne l'as pas abandonné. Tu n'as pas abandonné. Avec nous. Merci pour le privilège de pouvoir venir à toi, venir te servir, toi le Dieu vivant. Amen. Ceux qui sont sur Zoom peuvent aussi prier dans n'importe quelle langue. Même en allemand, en français. Merci Père pour ta parole, tes messages. Merci de toucher mon cœur. Modèle-moi. Amen. Pour m'amener à maturité. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons donner gloire à ton nom. Nous voulons marcher avec toi jusqu'à la fin dans cette alliance. Merci parce que tu veux faire de nous ces sacrificateurs qui une telle langue et de telles lèvres dans la justice et la vérité. Amen. Seigneur Jésus. Fais de nous de tels serviteurs. Merci pour ta riche parole dans ces jours. Nous voulons vraiment prendre à cœur ce que tu dis et que tu nous sanctifies encore et encore. Merci de nous avertir. Merci de nous corriger aussi dans ces jours. Nous voulons être ceux qui se repentent et reviennent à toi. Nous voulons faire partie de ceux qui craignent l'Éternel